Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu un jour. Une pastille consacrée à la draft NFL 2023 et aux besoins de chaque franchise NFL. On prend aujourd'hui la direction de la grosse pomme pour parler d'une des équipes surprises de la campagne 2022, à savoir les New York Giants, surprenant donc qualifiés en tour de division donc la saison dernière, donc sortis notamment par les Philadelphia Eagles, et qui vont pouvoir de nouveau tenter de capitaliser sur leur choix de draft, hein, comme ça avait été le cas l'année dernière, notamment par le biais du trade avec Chicago pour Justin Fields. Cette saison, donc, on a un premier, un deuxième et un troisième tour. On s'intéressera à ces trois premières sélections pour les G-men, et puis on essaiera également de déterminer un sleeper, une bonne affaire entre le quatrième et le septième tour. Et il y aura quand même de quoi faire, parce qu'en l'occurrence, les Giants, au jeu des tours compensatoires, auront donc sept sélections le troisième jour, en tout cas à l'heure où on se parle, bien entendu, puisqu'il y aura les échanges, sûrement, possiblement, en tout cas, entre-temps. Pour m'accompagner, pour parler des sélections des Giants, Tonio Adjavon est toujours avec moi. Salut, Tonio.
Salut, salut. On enchaîne, on est parti avec les Jacks, ça s'est plutôt bien passé, donc il n'y a pas de raison, on continue avec les Giants.
Tout à fait. Là encore, c'est pour perfectionner, mais du côté des Giants, il y avait un chantier qui était assez important la saison dernière, qui a quand même été assez bien compensé par Brian Daboll pour ses débuts du côté de New York. On va donc s'intéresser donc aux besoins, savoir un petit peu comment on va réussir à bien entourer Daniel Jones, comment on va réussir à perfectionner un petit peu cette excellente ligne défensive qu'on a vue l'année dernière chez les G-men. Et je vais avoir le lead du coup pour ses premiers choix, en tout cas pour les choix globaux des Giants. C'est pour le premier tour, je suis parti sur un receveur. Alors, j'ai beaucoup hésité en l'occurrence, mais je suis quand même parti sur la position de receveur avec en priorité la sélection de Jordan Addison. Alors, avec l'interrogation de savoir s'il sera toujours disponible en 25e, hein, il y a toujours des petits points d'interrogation concernant les principaux receveurs, on va dire les 3-4 premiers receveurs du plateau, hein, savoir à peu près dans quel ordre ils vont être sélectionnés. Mais en l'occurrence, Jordan Addison, on a quand même affaire à un profil assez complet. Certes, c'est pas le joueur le plus costaud du plateau, hein, on peut lui reprocher un petit peu son côté frêle, notamment quand il va falloir être opposé à des corners assez habiles pour jouer sur de la couverture en homme à homme. Mais en attendant, en termes de tracé, en termes de capacité de séparation, même en termes de main, parce qu'en l'occurrence, il s'est beaucoup amélioré dans ce registre-là, c'est un joueur qui est une vraie soupape de sécurité, qui peut être notamment un excellent slot receiver dans un premier temps, et qui apportera, je pense, une palette un petit peu différente de ce qu'on a pu voir avec Darius Slayton, ou de ce qu'on sera susceptible de voir dans les mois à venir avec Wandale Robinson, qui est sans doute un peu plus vertical. Ça permettra d'avoir un éventail un petit peu plus fourni, et ça me rassure un peu plus, en l'occurrence, qu'un Quentin Johnston, de par le panel peut-être un peu plus vaste que peut apporter Addison à long terme. Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté, Tonio.
Ouais, je pense que tu as tout dit. Moi, il y a un mot que je ressortirai pour le qualifier, c'est playmaker, c'est-à-dire qu'un ballon en main, il a le feu dans les jambes, et puis il arrive à faire la différence assez facilement. Le gros bémol, effectivement, c'est son physique. Mais même si à terme il n'a pas la capacité de jouer à l'extérieur, tu l'as très bien dit, dans le slot il sera très 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 efficace. Et ouais, non, je me fais aucun souci pour la suite de sa carrière, pour peu qu'il reste en bonne santé évidemment. En choix 25, s'il est encore disponible, ce serait une très belle sélection.
Alors, comme alternative, alors j'ai comparé les deux hommes et j'ai donné ma préférence personnelle. Ça ne veut pas dire que Quentin Johnston n'a pas des qualités pour pouvoir aider cette attaque des Giants. Ça tombe bien, c'est lui que tu sélectionnes, en tout cas que tu proposes aux Giants pour ce 25e choix.
Alors, qu'on soit clair, je le propose pour les Giants, mais je suis d'accord avec toi, dans l'absolu, Jordan Addison est un
T'es
meilleur
vraiment plus sur
joueur.
l'alternative, quoi.
C'est ça, c'est ça, c'est vraiment
Ok.
pour l'exercice. Alors, on sait que certains joueurs bénéficient des mois qui séparent la fin de la saison universitaire de la draft, avec une hype qui monte. Pour le coup, Quentin Johnston, c'est tout l'inverse. Depuis la fin de la saison universitaire, sa cote ne fait que baisser, baisser, baisser. J'ai envie de dire à raison, parce que à mon avis, la hype qui l'entourait, lui, était un peu trop forte à mon goût, certainement amplifiée par la très belle saison qu'a fait TCU. Mais faut pas aller trop fort dans l'autre sens non plus. Voilà, faut pas trop le dénigrer. Ça m'étonnerait qu'il soit un bust absolu en NFL. Il a des défauts, notamment la sécurité du ballon, mais il a quand même des qualités qui sont indéniables. C'est le profil type du receveur. À mon sens, hein, qui peut faire plus de mal chez les pros qu'il en a fait à l'université, avec plus un jeu qui est plus tourné vers la passe et plus d'opportunités de yak, parce qu'effectivement, lui aussi, ballon en main, il est très rapide, très puissant. Donc, pour l'arrêter, c'est compliqué. Il est violent et soudain dans, j'ai envie de dire, dans ses prises de décision, mais c'est pas vraiment une prise de décision, c'est plus dans les moves qu'il fait, alors qu'il a un gros gabarit, pourtant, quand il veut changer de direction, ça part très vite. Et puis comme il est costaud, c'est vraiment très très compliqué de l'arrêter. Deux gros problèmes de drop qu'il faudra corriger. C'est pas évident de le corriger. En général, quand on l'a, il y a beaucoup de joueurs qui se le traînent tout au long d'une carrière. Si il a du mal à progresser là-dessus, ça va être vraiment un joueur entre guillemets partiel, hein, qu'on va utiliser avec parcimonie. Si il arrive à sécuriser le ballon avec plus de facilité. Ouais, ça peut être un très très bon receveur numéro 2 dans une bonne équipe. Donc voilà, je préfère Jordan Addison, mais si Quentin Johnston est disponible, ce ne serait pas déconnant non plus de le sélectionner.
Tout à fait. Bon, on en reparlera dans quelques jours de Johnston, et c'est vrai que t'as tout dit dans le sens où c'est vrai que c'est un. Pour le coup, on dit souvent la ville fait pas le moine. C'est la preuve avec Quentin Johnston. C'est-à-dire que si on s'attend à avoir un joueur qui va être hyper spectaculaire dans les duels contestés ou ce genre de choses, paradoxalement, c'est là où il est pas forcément le plus à même. C'est vrai que c'est plus le profil d'un tracteur avec un moteur de Ferrari, Quentin Johnston. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé, voilà, faut essayer de l'attraper. Une fois qu'il a le ballon en main, en effet, c'est très très compliqué. Tu le disais notamment de par ses yards après la réception, mais voilà, c'est un travail en progrès, comme on aime bien dire outre-Atlantique.
Tout à
Mais
fait.
en tout cas, voilà, c'est deux profils en poste de receveur qui pourront intéresser les Giants à coup sûr. On part sur le deuxième tour. Je suis parti sur un lineman offensif intérieur et sur John Michael Schmitz. Il y a quand même des gros besoins sur la position de centre, hein, notamment depuis le départ ou le cut, il me semble qu'il était en fin de contrat de John Feliciano du côté des Giants. Donc, je suis parti sur le centre qui représentait la valeur la plus sûre. Alors là aussi, j'aurais pu mettre une alternative parce que très clairement, ça dépendra du meilleur centre qui sera encore présent à ce moment-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on parle du quantième choix, 57e. Donc, on a déjà vu des joueurs, hein, même des centres, même le meilleur centre supposé du plateau descendre en 57. Mais comme je vois que Steve Avia a quand même une belle cote et qu'il est pour moi le deuxième centre peut-être le plus intéressant, en tout cas celui qui sera le plus à même de s'intégrer, on va dire, dans le système offensif des Giants, et je me dis que ou l'un ou l'autre, je partirais quand même sur John Michael Schmitz, qui représente en plus une bonne capacité à être très polyvalent, joueur qui a joué centre quasiment pendant l'exclusivité de son parcours du côté de Minnesota, mais qui a démontré une mobilité très intéressante pour éventuellement dépanner en tant que garde. C'est un joueur qui, à mon sens, peut être excellent en gap, en l'occurrence pour s'adapter un peu plus sur le schéma assez équilibré de bloc du côté de New York, mais qui en zone a été absolument excellent du côté de Minnesota. Donc il sait faire énormément de choses. On est sur la plus pure tradition de la main offensive de Minnesota, donc des linemen assez violents, très techniques. Voilà, expert des pancakes. Donc en l'occurrence, je pense que du côté de New York, pour continuer de rajouter un peu d'intimidation avec les Van Neal, avec les Andrew Thomas, avec toute la tripotée, on dira, de la main intérieure qu'ils ont ajouté ces derniers mois du côté de New York, je pense que ce sera pas une mauvaise chose pour vraiment donner un peu plus de tempérament et de caractère ce qu'appréciera Brian Daboll, qui est, si ma mémoire ne fait pas défaut, un ancien lineman offensif.
Ouais, bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, t'as tout dit. T'as même mentionné Steve Avila vite fait, et c'est vrai que ce sont deux joueurs finalement assez similaires dans leur profil. Et quand on regarde le roster des Giants, ça ferait pas de mal de rajouter encore un peu de muscle à l'intérieur de cette ligne offensive.
Tout à fait. Alors du coup, je te donne la parole pour ton deuxième choix. Du coup, tu repars en défense, hein, parce que c'est vrai que ça reste malgré tout un besoin. Tu pars sur le backfield défensif, du coup, safety ou corner pour toi?
Je pars sur un safety. Alors, pareil, je pense que c'est pas un besoin forcément urgent, mais bon, Bobby McCain, moi, je suis pas ultra fan. Et donc, je suis parti sur Antonio Johnson, safety d'A&M, Texas A&M. C'est un joueur qui est vraiment complet, finalement. Il n'a pas de gros défauts majeurs. Il prend des risques, beaucoup de risques, notamment dans ses plaquages, que moi, je trouve calculés. Que d'autres diront sont un peu fous, qui peuvent être sanctionnés par des pénalités. Mais moi, je suis plutôt fan de cette aptitude-là. Il a une capacité d'accélération qui est assez inouïe pour sa taille. Après, voilà, il y a une question sur son poste. Est-ce que c'est plus un safety, plus un linebacker? La réponse d'un coordinateur défensif intelligent sera certainement un peu des deux, avec peut-être un peu de prise de poids, de muscle au programme. Le petit défaut, enfin c'est pas un défaut, hein, c'est malgré lui, c'est qu'il a déjà 24 ans, donc la marge de progression, on en déduit, n'est pas forcément énorme. Mais non, c'est un joueur que j'aime plutôt bien. Il est complet, ouais. C'est pas de gros défauts, pas de qualité incroyable non plus, mais il peut faire du bien à une défense.
C'est ça. Quand on cherche un safety assez hybride, capable de faire pas mal de choses pour remplacer Julian Love, c'est vrai qu'en l'occurrence, Antonio Johnson, même si c'est pas exactement le même profil, je pense qu'on sera beaucoup plus sur du box safety. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut faire parfaitement le switch entre la boîte et le slot en l'occurrence. Donc c'est vrai qu'il apporte vraiment une plus-value, que ce soit sur le run stop et sur la couverture, ce qui sera pas forcément une mauvaise chose quand tu sais que tu as des attaques, notamment comme les Cowboys et les Eagles à surveiller dans la division. Donc ça reste, en l'occurrence, je te rejoins, un backfield défensif à renforcer du côté de New York. Concernant donc mon troisième choix, le troisième tour, donc je suis resté sur le backfield défensif en l'occurrence, mais je suis parti vers un cornerback. Un joueur qui a joué aussi un petit peu partout, mine de rien, durant son cursus universitaire, parce que je vais parler de Tyrique Stevenson, donc cornerback de Miami, qui avait commencé notamment du côté de Georgia, où il excellait notamment sur le slot. Principalement chez les Bulldogs. En partant du côté de Miami, c'est un peu plus écarté. Alors c'est un joueur dont on a vu qu'il avait été capable de gagner en maturité. Il n'est pas encore complètement poli, je trouve, dans son jeu. Il y a peut-être pas mal de difficultés, on va dire, en termes de fluidité de déplacement, en termes de capacité d'interception. Ça, c'est son gros bémol. C'est peut-être justement le fait de ne pas forcément avoir des mains très très sûres, ou en tout cas très très dissuasives pour les receveurs adverses. Maintenant, c'est un joueur qui est extrêmement sérieux, extrêmement collant, un très bon press corner en l'occurrence. Et en termes de marge de progression, je trouve que c'est un joueur. Alors, j'ai pas son âge sous les yeux, pardon. Mais je trouve que c'est un joueur qui a quand même malgré tout une assez bonne marge de progression malgré l'âge qu'il pourrait avoir. Donc vraiment à surveiller, mais ça peut être un joueur qui peut apporter ce côté physique qui manque peut-être encore du côté de New York chez les cornerbacks. Il a été très peu permissif, je trouve, en termes de captation de ballon dans la conférence ACC la saison dernière. Donc voilà, ce serait à mon sens une assez bonne opération pour les G-men de le récupérer au troisième tour.
Ouais, j'ai cherché son âge, c'est 22 ans, il va sur ses 23. Bon, évidemment, c'est pas un
Il y a des
bébé,
joueurs plus
mais
vieux, ouais.
voilà, c'est pas rédhibitoire non plus, quoi. Et ouais, non, je suis d'accord avec toi, et surtout, comme tu l'as dit en presse, il est déjà prêt pour jouer ce type de jeu en NFL. Et même s'il progresse pas ailleurs, ça restera un très bon joueur de rotation juste en presse, parce qu'il est très musclé, il est très puissant pour le poste. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là.
Du coup, alors on a switché les possibilités, puisque moi au deuxième, alors on avait tous les deux donc des joueurs du backfield défensif. Toi, c'était plutôt au deuxième, moi c'est plutôt au troisième. On a également tous les deux des joueurs de ligne. Moi, c'est au deuxième, et toi, en l'occurrence, c'est au troisième, puisque tu es parti sur un joueur dont la cote ne cesse de grimper en provenance d'NC State.
Ouais, tout à fait, Chandler Zavala. Sa cote ne cesse de grimper parce qu'elle n'a pas cessé de descendre avant ça, et à mon sens un peu injustement. Surtout, je pense, à cause de ses blessures. Alors, pas cette saison, mais la saison passée, il a une blessure assez sérieuse au dos. On a mal au dos en général, c'est pas très pratique pour jouer au football américain. Il a aussi une grosse fracture de la cheville quand il était au lycée. Donc, je pense que ça a inquiété pas mal de scouts et de general manager. Mais quand on le regarde jouer, notamment la saison dernière, on voit que bon, déjà, c'est un gros bébé, un bon gros bébé. C'est un peu physiquement le prototype fabriqué dans un laboratoire pour la NFL moderne, quoi. Il y a rien à redire niveau taille, niveau poids. Il est très violent, très très violent. Il finit ses jeux, il met ses adversaires au sol, mais sans aucune, je veux dire, sans scrupule, sans sentiment. Voilà. Et puis il le fait surtout sans prendre de risques outre mesure non plus, quoi. Il est très peu pénalisé. Alors, j'ai pas trouvé la stat s'il avait le nombre de pénalités qu'il a reçues la saison dernière, mais ça m'étonnerait pas qu'il en ait eu une ou deux simplement. Donc ça prouve qu'il a quand même de la maîtrise dans sa violence. Et ouais, bon, pour une équipe comme les Giants, voilà, muscler cette ligne offensive, notamment l'intérieur, tu l'as fait au deuxième tour, je le fais au troisième. C'est peut-être pas une priorité absolue, mais ça peut être très très utile.
Moi, j'aime cette notion de la maîtrise de la violence.
Ça ne passe seulement dans
Ouais.
le contexte du football américain.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais, de toute façon, on parle que de ça, mais
Ouais.
même ça en soi, j'avoue, c'est assez conceptuel et c'est de vraiment faire réfléchir deux, trois. Ouais. Mais oui, genre, je te rejoins là-dessus. Par contre, pour le coup, c'est vrai que il y a quelques vidéos sur lesquelles j'ai un peu tiqué sur le fait où, enfin, je me demande si vraiment sur les décrochements, il est aussi à l'aise qu'en protection, enfin, en tout cas, qu'en schéma de gap. Parce que comme tu le dis, quand c'est vraiment du défi physique pur, il est injouable quasiment. Mais c'est vrai qu'en mobilité, tu sens que l'équilibre est un peu plus balbutiant et c'est là aussi où, comme tu le disais, ces problèmes de dos, c'est peut-être là encore une fois où ça peut être problématique parce que si tu te retrouves à devoir être un petit peu déséquilibré, pas forcément avoir un bon point d'ancrage justement en mobilité, ça peut peut-être être quelque chose, une petite bombe à retardement à surveiller de son côté. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un troisième tour. Donc c'est pas incohérent avec ce que tu mets en avant et ça pourrait malgré tout être une bonne solution pour New York la saison prochaine. On passe au sleeper à présent, la bonne affaire, et je suis parti vers un running back du côté des Giants pour avoir une solution de soutien hein, derrière Saquon Barkley hein, qui a fait une bonne saison enfin en tout cas qui est enfin revenu de ses problèmes de blessure mais j'occulte pas ce souci-là même avec Gary Brightwell et Matt Breda en backup hein, je sais que ça vend du rêve mais peut-être pas tant que ça. Et en l'occurrence, alors je suis parti sur un joueur qui peut être assez polarisant de par ce qu'il montre, mais je suis parti sur Sean Tucker, pardon, running back de Syracuse, qui a été vraiment une grosse sensation du côté justement de l'État de New York. Hein, donc voilà, une star locale qui a démontré une véritable explosivité, qui a été beaucoup plus à l'aise sur une grosse attaque axée sur du jeu en zone. Donc, il faudra voir un petit peu comment il se réhabitue, surtout que sa vision de jeu est pas forcément ce qui le caractérise le plus. C'est pas un des running backs qui est capable de se mettre le plus en évidence également en sortie de backfield. Donc ça va être également un élément à prendre en compte. Mais je trouve que le côté un peu home runner derrière Saquon Barkley, s'il y a besoin justement d'un running back numéro 2 capable d'exploser, d'apporter de l'explosivité et une capacité d'accélération un petit peu foudroyante, je trouve qu'avoir un Sean Tucker... Alors, admettons, la classe de running back est tellement dévaluée malheureusement que c'est difficile de considérer un peu. Mais je me dis quatrième, cinquième, dernier carat, peut-être plus aux alentours du cinquième, récupérer un Sean Tucker, je pense que ce serait pas une mauvaise solution pour les Giants.
Dans le profil, tu as tout dit. Moi, je suis pas archi fan de ce joueur, je t'avoue. C'est surtout à cause de son physique. C'est un running back diminutif, quoi. Il est très petit. Mais après, ouais, comme tu l'as dit, hein, il est explosif et il a ce potentiel à faire des gros jeux. À voir, c'est pas rédhibitoire la taille. Il y a des petits running backs qui ont fait de très belles carrières, qui font de très belles carrières en NFL, donc pourquoi pas. Moi, je suis pas archi fan, mais dans cette optique, si on croit en joueur, ça peut être effectivement un bon joueur à avoir derrière Saquon Barkley.
Pour ton sleeper, tu retournes en défense et sur un profil assez intriguant puisqu'on va parler d'un defensive tackle d'Oklahoma.
Ouais, Jalen Redmond, c'est un joueur Voilà, qu'il y a pas mal de questions qui planent un peu au-dessus de sa tête, ben, notamment le fait que, notamment contre la course, il joue un peu en dilettante, quoi, un peu tête en l'air, à trop vouloir aller saquer le quarterback. En tout cas, c'est mon impression à le voir jouer, notamment la vidéo, parce que j'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de matchs de lui en direct. L'impression qu'il est focalisé sur le quarterback et que quand il y a un jeu de course qui est face à lui, ben, il est perdu, on ne sait plus où il est. C'est pas un joueur qui est non plus très instinctif. Il a des moves un peu mécaniques, ce qui est paradoxal parce que c'est un très bon athlète, vraiment un très très bon athlète. Donc voilà, il y a du travail. Faut polir un peu ce diamant brut, mais c'est pas un travail insurmontable non plus. Voilà, je pense que le jeu peut en valoir la chandelle, justement parce qu'il a des qualités athlétiques qui sont assez exceptionnelles. Le bémol, c'est sa santé. Il a manqué pas mal de matchs à l'université. Et il a déjà 24 ans. Alors, 24 ans, c'est vieux seulement dans le contexte de la draft. Hein. Faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais on peut penser que sa marge de progression n'est pas exceptionnelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas non plus tant de travail que ça à faire pour que ça devienne un très bon joueur en NFL. Donc voilà, Jalen Redmond, ça peut être un choix intéressant, un petit sleeper à sélectionner pour les Giants.
Vers quel tour?
Ouais, fin de troisième, début de quatrième.
Ah ouais, quand même.
Ouais, bah, parce que c'est vraiment le potentiel physique, quoi. On en a vu plein des joueurs qui sont sur le papier intéressants et qui n'ont pas forcément la production pour supporter le potentiel physique, qui sont sélectionnés assez haut. Donc moi,
Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, oui, c'est vrai que t'as mis le doigt un peu dessus, mais c'est vrai que c'est plus son parcours un peu tortueux à Oklahoma, parce que Jalen Redmond, déjà, dès sa sortie du lycée, c'était quand même un lineman défensif dont on attendait beaucoup. Alors, il y a eu une année blanche, alors, pour des problèmes de blessure ou de Covid, d'ailleurs, je sais plus exactement pour quelle année il a fait une année blanche.
Je pense que c'était un mélange de Covid et de caillots de sang. Donc,
Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Problème avec... Oui, voilà. Donc, depuis, fort heureusement pour lui, a priori, ça s'est pas représenté. Alors, je sais pas si c'était exactement la même chose. On a vu que ça n'a pas empêché, par exemple, Trey Smith, le garde de Tennessee, d'être un excellent titulaire du côté de Tampa Bay, hein, même si ça avait dévalué sa cote. Mais c'est vrai que Jalen Redmond, il était beaucoup plus dans de la pure rotation du côté d'Oklahoma. Et c'est vrai que ça lui permettait, comme tu le disais, d'avoir ce côté un petit peu... voilà, un petit peu foufou, hein, voilà, même sans être le plus constant, en tout cas, de mettre à profit ce mélange de physique et de vitesse pour éventuellement être plutôt un lineman défensif, on va dire situationnel, si je peux utiliser cette expression. Ça ne veut pas dire qu'il pourra pas l'être en NFL non plus, mais c'est vrai, voilà, ça va dépendre éventuellement ce qu'on veut en faire et à quel point on est prêt à miser dessus. Mais oui, ça peut être un excellent sleeper, mais c'est plus là-dessus que je tique un peu. Je regardais Chandler Zavala, c'est deux pénalités en 2022, pour
Ah, ben ouais.
information. Ouais. Donc peu
Du coup,
pénalisé, on est d'accord.
tout à fait.
Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents choix des New York Giants. Je te remercie, Tony, d'avoir été en ma compagnie. Demain, je ne me trompe pas, on est dans la NFC Est, toujours, et
Ouais.
on va parler des Dallas Cowboys. Donc, savoir un petit peu les besoins de la franchise texane. Merci encore, Tonio. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. À passer en tout cas une très bonne journée sur les antennes de TVA. À très
Pas de
vite.
problème, à demain.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.